18h et c'est l'heure des informations avec vous, Ludovic Piétenu, bonsoir.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Le point sur l'enquête 2 jours après l'attaque d'une église catholique à Saint-Étienne-du-Rouvray près de Rouen. On en sait plus sur les 2 auteurs. Le dernier homme identifié était dans les radars du renseignement, précision à suivre de Corinne Audouin. On reviendra sur les propositions d'anonymisation des auteurs d'actes terroristes, de la non-publication de leurs photos dans la presse. Cela agite depuis hier le monde médiatique. Et aujourd'hui, politique, nous dira Stéphane Robert. L'Allemagne frappée elle aussi par des actes de violence, une voix que l'on n'avait pas entendue depuis, celle de la chancelière Angela Merkel. Elle s'est exprimée ce midi, correspondance à Berlin de Nathalie Versieux. Des couloirs humanitaires pour épargner les habitants de la grande ville d'Alep en Syrie. Proposition aujourd'hui des Russes contre laquelle s'indigne, vous l'entendrez, le professeur Ziad Majed. Il la juge profondément hypocrite. Un conseil d'administration d'EDF sous très haute tension avec une démission de taille aujourd'hui pour contester les choix stratégiques du groupe. Trop nucléaire, nous dira Jean-Marc Chardon. 2 jours après l'attaque de l'église catholique de Saint-Étienne-du-Rouvray près de Rouen et de l'assassinat d'un prêtre, on connaît désormais l'identité des 2 auteurs. 2 jeunes de 19 ans, tous 2 fichés S, sous surveillance donc. Le premier, on le sait, était sous bracelet électronique. Le deuxième, fiché S depuis seulement fin juin, dans les radars du renseignement, Corinne Audouin.
Le parcours d'Abdelmalik Petitjean, c'est celui d'un jeune homme sans histoire, diplômé du bac commerce, qui enchaîne les contrats en intérim, inconnu de la police et de la justice, jusqu'à très récemment. Le 29 juin, la Turquie signale à la France que l'homme est entré sur son territoire le 10 juin, un signalement motivé par le fait qu'il était en compagnie d'un autre homme, âgé de 20 ans, fiché S, et refoulé dès le lendemain. Les services français émettent donc une fiche S sur Abdelmalik Petitjean, avec l'idée de l'interpeller au moment de son retour. Mais Petitjean n'a en fait passé que 24 heures sur place. Il est rentré dès le 11 juin, ce que les renseignements ignorent. En parallèle, la semaine dernière, l'UCLAT, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, diffuse à tous les services de police la photo d'un homme soupçonné de vouloir commettre un attentat en France. Cette photo, on le sait aujourd'hui, c'est celle d'Abdelmalik Petitjean. Mais entre sa fiche S, qui ne comportait pas de photo d'un côté, et une simple photo sans nom de l'autre, les services n'ont pas pu faire le rapprochement. La DGSI interroge en ce moment l'homme qui avait accompagné Abdelmalik Petitjean en Turquie, avec notamment cette question centrale. Comment Petitjean est-il entré en contact avec l'autre auteur de l'attentat, Adel Kermiche, assigné à résidence en Normandie?
Dans cette enquête, les interpellations se poursuivent avec aujourd'hui la mise en garde à vue d'un homme parti en Turquie avec l'un des tueurs. Il est entendu dans les locaux des services de renseignement à Levallois-Perret. Puis les obsèques du prêtre auront lieu, on l'a appris tout à l'heure, mardi en début d'après-midi à la cathédrale de Rouen. En ce moment même, dans la commune de Seine-Maritime, la population de la ville rend hommage à son curé. Le rassemblement se fait dans un parc et un stade attenant pour des raisons de sécurité. Voyons à présent le débat sur l'anonymisation des auteurs d'actes terroristes. On en parlait hier, pas de photos, pas de noms. Et désormais, la classe politique s'en empare après le monde des médias avec une proposition de loi déposée par 2 parlementaires de l'UDI et des Républicains, avec aussi des propositions de la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, Juliette Méadel, proposition faite au CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'instance travaille aussi de son côté sur un code de bonne conduite. En attendant, chaque média s'organise. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Ludovic.
Mais la question, faut-il imposer une contrainte ?
C'est une question qui rencontre un écho retentissant sur Internet, sur les réseaux sociaux depuis 2 jours, qui fait également débat au sein même de chaque média. Le journal Le Monde, par exemple, a décidé de ne plus publier les photos des auteurs d'actes terroristes, tandis que le quotidien Libération estime que ça ne change rien et qu'un média n'a pas de responsabilité dans une quelconque glorification des terroristes. Tout ça est parti du présupposé que les terroristes, en tournant des vidéos juste avant de commettre leur crime ou en laissant sur place leur pièce d'identité, pourraient être à la recherche d'une notoriété posthume, que cette recherche de notoriété serait une des motivations de leur passage à l'acte. Et donc, l'idée est qu'en leur supprimant l'accès à cette notoriété dans les différents médias, on pourrait peut-être les empêcher de passer à l'acte. Alors déjà, il faut bien considérer que cette recherche de notoriété, si tant est qu'il y en ait une, n'est pas attendue auprès du grand public et dans les médias traditionnels, mais plutôt au sein des réseaux djihadistes qui ne manquent pas de relayer les horreurs commises. Et ça, dans le cadre mondialisé du fonctionnement d'Internet, ça n'est pas contrôlable, ça n'est pas maîtrisable. Ensuite, cette volonté de légiférer sur cette question témoigne de l'impuissance ressentie par la société et par nos responsables politiques face au au phénomène terroriste. Et comme on ne sait pas comment faire face, on trouve une explication plus ou moins rationnelle. C'est la notoriété offerte par les médias qui est responsable. Et on apporte donc une réponse plus ou moins rationnelle. En coupant cette notoriété, on va stopper le phénomène. C'est quand même un peu court. Enfin, vouloir dicter aux médias par la loi ce qu'ils doivent dire ou ne pas dire, ce qu'ils doivent montrer ou ne pas montrer, sans faire appel à une certaine éthique de responsabilité, c'est très dangereux parce que c'est aller à l'encontre de la liberté d'informer et de la liberté d'être informé. Et c'est encore une fois écorner les principes démocratiques de notre société.
Stéphane Robert, faut-il réserver un traitement particulier à des détenus particuliers, comme par exemple le suspect clé des attentats du 13 novembre à Paris à Saint-Denis, Salah Abdeslam, le détenu le plus surveillé de France, sous l'œil des caméras 24 heures sur 24. C'est une atteinte, selon son avocat, à sa vie privée. Le Conseil d'État a longuement débattu aujourd'hui. Il rendra sa décision demain. Et puis après l'attentat de Nice le 14 juillet, François Hollande lançait un appel aux Français à rejoindre les rangs des différentes réserves des forces de sécurité dans le but de constituer ce qu'il appelait une garde nationale. Cette garde verra le jour, a annoncé ce matin l'Élysée après avoir reçu les trois parlementaires de tous bords qui réfléchissent à la question. On en saura plus mercredi prochain à l'occasion du Conseil des ministres et à la rentrée avec une parole présidentielle attendue sur le sujet. Une parole qui était rare après les attaques à répétition qu'a subi de son côté l'Allemagne. 11 morts et des dizaines de blessés. La parole de la chancelière Angela Merkel. Elle s'est exprimée à la mi-journée pour répondre à certains débuts de surenchère dans son pays avec entre autres le débat sur la politique d'accueil des réfugiés. À Berlin, Nathalie Versieux.
On l'attendait sur la défensive, c'est combative et plutôt détendue qu'Angela Merkel s'est présentée à la presse défendant son bilan sur les réfugiés. L'Allemagne restera fidèle à ses valeurs, a insisté la chancelière, reprenant le célèbre « nous y arriverons » qu'elle avait prononcé voici 11 mois au moment d'ouvrir les portes aux réfugiés piégés à Budapest. « Nous y arriverons tout comme nous parviendrons à affronter ces défis que sont le terrorisme islamiste et l'intégration des réfugiés à tel expliqué. Pour la chancelière qui interrompait ses vacances pour l'occasion, il s'agissait de couper court aux critiques à l'encontre de sa politique, d'autant plus dangereuse à un an des prochaines législatives qu'elles émanent désormais ouvertement de son propre camp, la CDU. La chancelière a présenté un plan de mesures en 9 points pour la plupart des projets de loi déjà connus, comme le renforcement des expulsions, certains plus nouveaux, comme la possibilité pour la Bundeswehr d'intervenir dans les questions de sécurité intérieure au-delà des cas de catastrophes naturelles comme à l'heure actuelle.
Nathalie Versieux à Berlin, en Syrie, à Alep, deuxième ville du pays au nord. Voilà que la Russie explique aujourd'hui que des couloirs humanitaires vont être mis en place pour offrir une sortie aux plus de 250 000 civils assiégés, affamés, pris au piège des combats et des bombardements. Cet après-midi, la France et le Royaume-Uni appellent conjointement et solennellement les alliés du régime syrien à faire cesser ces frappes. Cette proposition de couloir humanitaire permet à Moscou de se présenter en sauveur de la situation. C'est un peu fort, estime Ziad Majed, professeur à l'Université américaine de Paris.
Après avoir bombardé toute l'infrastructure de la ville d'Alep, après avoir détruit les boulangeries et surtout après avoir visé systématiquement les hôpitaux et les dispensaires de la ville d'Alep, voilà que les Russes maintenant souhaitent se montrer devant une communauté internationale qui ne réagit pas et qui se contente de répéter ce que la propagande russe répète. On laisse une population affamée et bombardée devenir une population de déplacés et de réfugiés en appelant ça couloir humanitaire. Donc un couloir humanitaire, c'est ce que les Syriens demandent depuis très longtemps, devait en fait finir avec les sièges des villes et permettre aux gens de vivre chez eux et d'avoir des cessez-le-feu. Là, c'est à sens unique. Donc les gens doivent quitter leur domicile, quitter leur quartier et leur ville pour devenir des réfugiés quelque part. Avec, on le sait très bien qu'ils ne sont pas admis d'ailleurs dans n'importe quel pays maintenant comme réfugiés. Donc ça c'est une pression politique sur l'opposition syrienne pour dire que eux ils tiennent la population civile d'Alep en otage, tandis que nous on leur permet de quitter, donc de devenir des déplacés et des réfugiés. Et la communauté internationale jusqu'à maintenant soit réagit très passivement, soit suit la propagande russe et n'évoque même pas les crimes de guerre, les violations du droit international humanitaire, notamment de la 4e Convention de Genève, avec le siège, le bombardement et la destruction systématique des dispensaires, des hôpitaux, comme l'ont souligné Médecins Sans Frontières, Human Rights Watch, Amnesty International. Malheureusement, les capitales occidentales ferment les yeux et laissent les Russes diriger les opérations militaires et la propagande médiatique.
Ziyan Majed répondait à Valérie Krova. En Turquie, le grand ménage continue après le putsch raté d'il y a 15 jours, notamment dans les trois armées, 149 généraux et amiraux limogés par le pouvoir du président turc Recep Tayyip Erdogan. Une réunion du Conseil militaire suprême se tenait aujourd'hui dans la capitale Ankara pour décider des importants changements à venir dans cette hiérarchie militaire. Haute tension au conseil d'administration d'EDF avec le départ fracassant d'un administrateur, Gérard Magnien, inquiet d'une stratégie centrée sur le nucléaire. Début mars, c'était le directeur financier qui claquait la porte. Bonsoir Jean-Marc Chardon.
Bonsoir Ludovic.
L'un des soucis, car la liste est longue à EDF, c'est le coût exorbitant du nucléaire et entre autres de la construction de cette centrale d'Hinkley Point en Grande-Bretagne.
En effet, un méga projet, un chantier hors norme et cette démission, c'est une démission surprise, complique un peu plus ce dossier déjà détonnant. Après la précédente, en effet, celle du directeur financier d'EDF, Thomas Piquemal, voilà quelques mois, tout cela traduit bien le malaise grandissant autour des enjeux même du projet de deux réacteurs nucléaires à Hinkley Point. Entre ces deux démissions, eh bien, il y a la question des risques liés à cette opération. Mais avec une différence d'approche, autant Thomas Piquemal, l'ex-directeur financier, avait insisté sur l'aspect onéreux du chantier dans un environnement incertain, autant Gérard Magnien, lui, l'administrateur, souligne ce qu'il voit comme une contradiction. Pourquoi conforter l'option nucléaire avec Hinkley Point au moment où l'État est censé privilégier une stratégie plus diversifiée dans le cadre de la transition énergétique? D'où son expression « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». Différence d'approche donc, mais même inquiétude au final sur l'avenir d'un projet que les organisations syndicales, elles aussi, mettent en cause. Représentés dans le groupe des 6 administrateurs salariés, ces organisations ont réclamé des informations supplémentaires, un rapport, afin d'y voir plus clair pour elles. Eh bien, le projet serait réalisable, mais pas dans l'état financier d'EDF, ce qui les a conduits à demander un report de quelques années. Une position qui, on le sait, n'est pas partagée, ni par l'état-major de l'entreprise, ni par l'état actionnaire majoritaire, lesquels disposent d'une majorité de voix au conseil d'administration. Pas question de reculer, il faut y aller pour eux, on est prêts, disent-ils en cœur, disent le défenseur, en tout cas les défenseurs de ce projet. Réponse sans doute dans les heures qui viennent.
On saura effectivement l'avenir de ce méga projet à plus de 21 milliards d'euros. La grève à Air France entrera demain dans son troisième jour pour les hôtesses et les stewards. La direction ce soir hausse le ton en dénonçant, je cite, un mouvement regrettable et agressif. Aujourd'hui, 30 000 passagers ont été empêchés. Demain, même étiage, même proportion puisque 80% des vols seront assurés. Une contre-autopsie qui n'est pas à même d'apporter la vérité, selon l'avocat de la famille d'Adama Traoré, cet homme mort lors de son interpellation par des gendarmes la semaine dernière, suscitant la colère des proches et des habitants de cette commune de Beaumont-sur-Oise en région parisienne. Cette contre-autopsie demandée par les proches d'Adama Traoré ne montre ce soir aucune trace de violence, selon le procureur, mais c'est insuffisant, estime l'avocat maître Frédéric Zajac.
Adama Traoré est mort d'un syndrome d'asphyxie. Toute la problématique, c'est de savoir le mécanisme qui a provoqué cette asphyxie. Ça peut provenir soit d'une problématique qu'il avait en lui, soit d'une action extérieure. Ça pose question. Pourquoi ? Parce que cette famille doit savoir ce qui est arrivé à leur fils ou à leur frère. Les causes ne sont pas expliquées. Par contre, il y a une chose, et c'est pour ça que j'ai d'ores et déjà demandé une troisième expertise. Il y a quelque chose de tout à fait troublant, c'est que la première expertise avait déterminé une infection sérieuse qui touchait un certain nombre d'organes, et une anomalie cardiaque, un cœur qui est un peu plus gros que la moyenne. Et moi, mon problème, c'est que le collège d'experts qui a fait la contre-expertise n'a trouvé aucun point, aucune trace d'infection et n'a pas trouvé d'anomalie cardiaque. Donc moi, ça me pose de vraies questions.
Propos recueillis par Charlotte Béchler, il y aura d'autres résultats, ceux d'analyse très complète dans le courant du mois d'août, précise de son côté le procureur. Éclairer les circonstances d'un autre décès, c'était il y a près de 2 ans, le PDG de Total. Cette moustache bien connue, Christophe de Margerie, mourait dans le crash de son avion d'affaires. Son Falcon entrait en collision au décollage avec un chasse-neige sur l'un des aéroports de Moscou. Ce procès fleuve de plusieurs mois vient de s'ouvrir dans la capitale russe, d'où nous appelle Caroline Gojard.
L'affaire remonte au mois d'octobre 2014, le 20 octobre 2014, très exactement, Peu avant minuit, heure locale, le Falcon 50 qui transporte Christophe de Margerie et trois autres personnes heurte violemment une déneigeuse sur la piste de décollage de l'aéroport Vnukovo à Moscou. Le PDG de Total, seul passager à bord, et les trois membres d'équipage décèdent sur le coup. Deux enquêtes sont conjointement ouvertes à Moscou et Paris. Quelques heures seulement après le drame, la Russie accrédite une seule version officielle, celle de l'accident. Mais déjà, les thèses de l'assassinat circulent, alimentées au fil du temps par les nombreuses incohérences de l'enquête. Assassinat ou accident ? Le comité d'enquête russe, lui, explique en partie l'accident par le fait que le conducteur de la déneigeuse était ivre la nuit du drame. Des examens ont en effet montré que l'employé avait bu, mais l'équivalent de deux verres de vin seulement. Et surtout, plus troublant, certains enquêteurs rappellent qu'à Moscou, cette nuit-là, il ne neigeait pas, il pleuvait. Quoi qu'il en soit, les deux principaux accusés ont cet après-midi plaidé coupables, à savoir le conducteur de la déneigeuse et l'ingénieur en chef qui, lui, n'aurait pas correctement coordonné le travail de son équipe. Le procès a été reporté de nombreuses fois. Cette fois, il pourrait durer de longs mois.
Caroline Gojard à Moscou. Le temps de demain, des ondées et des nuages au nord, ensoleillés partout ailleurs. Édition préparée avec Jean-François Braun. Prochain journal, Laurent Vatrin, 22h.